Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
J'aimerais parler de politique internationale, mais on va plutôt parler de cinéma.
Oui, on pourrait dire ça. Écoute, il y a... La semaine, je m'en viens, t'as parlé du Top Gun des pauvres.
Le Top Gun version Wish.
Ah, c'est presque du grand n'importe quoi, mais on va voir qu'il y a plus de choses là, derrière ça. Alors, en gros, là, voici ce qui s'est passé. Vous allez voir ça sur tous vos écrans. Là. Avant que vous soyez caché en dessous d'une roche, là, vous allez en entendre parler pendant des jours. Il y a des drones américains. Et là, juste pour vous donner une idée, c'est pas les drones que vous voyez là sur YouTube, là. C'est un drone qui coûte à peu près 16 millions de dollars, qui peut être équipé de missiles et tout, mais c'est un drone en opération de surveillance, donc il y a des caméras partout là-dessus. Et pour vous donner l'idée de la taille, quand vous écoutez un match de tennis, là, c'est comme toute la portion entre le joueur et le filet. Donc, c'est la moitié okay. d'un terrain de tennis. Là. Ça rentre pas dans votre stationnement de garage. Les ailes font à peu près 20 mètres de large. Là. Alors, c'est quand même pas mal. Et il est en train de patrouiller au-dessus de la mer Noire. Donc, c'est proche de l'Ukraine, bien sûr, mais en territoire international. Et il y a deux avions de combat russes qui se décident, tiens, on pourrait énerver le drone. Et ils se mettent littéralement à décharger du carburant sur le drone. C'est ça leur tentative. Là.
Ils veulent le noyer.
Ils veulent le noyer dans les airs pour le faire chuter. Et là, quand on analyse, parce que là, on a les images. L'armée américaine a laissé les images aller. Et là, on a les images. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils s'essaient à au moins deux reprises. Donc, la surveillance, elle est délibérée. Les essais pour relâcher le carburant est délibéré, mais ils l'ont accroché.
Mais on l'a pas accroché parce qu'on voulait l'accrocher.
Ça, probablement que c'est plus accidentel. Et il doit avoir un bout là entre les armées de l'air là à travers la Terre. Comment faire passer les pilotes russes pour des amateurs là qui sont pas capables de conduire? C'est vraiment ça. Ils l'ont accroché et là, finalement, le drone est tombé en mer. Alors là, il y a plein de choses là-dedans. D'abord, un drone de l'armée américaine, c'est pas un avion de papier là.
Non.
C'est un drone de l'armée américaine qui est attaqué délibérément, ne serait-ce que par accident, par l'armée russe. Alors là, il y a eu quelques appels qui se sont faits parce que tout le monde s'est dit là, faudrait peut-être essayer d'éviter que ça dérape. Là. C'est pas une attaque de l'armée russe à l'armée américaine. Alors, mais quand même, le secrétaire ou le ministre de la Défense américain, le secrétaire de la Défense, a appelé son homologue russe en disant « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Le chef de l'armée, le premier militaire américain, a appelé pour dire « Hey, là, arrêtez vos niaiseries. » Alors, l'armée de l'air russe a l'air d'une gang d'amateurs. Mais là, la grande question, c'est comment ça va être interprété au plan politique?
Ben, c'est ce que j'allais te demander. Sur le plan diplomatique, ne penses-tu pas, Guillaume, que c'était voulu de faire un petit geste comme ça de manière à voir les Américains sont prêts à aller jusqu'à où?
Mais ça, c'est le bout qu'on sait pas. C'est-à-dire à quel point c'est une stratégie là délibérée qui est partie d'en haut, là, un général qui se dit, bon, parce que c'est pas nouveau que des avions russes, on appelle ça faire le miroir ou les suivre, là, même si on est en eau internationale. Ça arrive. De vouloir essayer de décharger du carburant sur un autre appareil en plein vol, c'est juste imprudent, amateur, stupide. De l'accrocher, ben, c'est sûr qu'à force de
T'es pas bon, là.
À force de jouer avec le feu, tu peux te brûler, là. Alors ça, c'est arrivé, puis là, on est chanceux, on est au-dessus de la mer, ça aurait pu être au-dessus de certaines populations, alors il n'y a rien qui est bon là-dedans. Alors jusqu'où c'était prévu, cette chose-là? Parce que là, dans les excuses de la Russie, c'est « bon, c'est pas vraiment arrivé ». Mais là, c'est parce qu'on l'a vu, tout le monde qui a accès à Internet l'a vu dans la vidéo. Ensuite, c'est ben là, les États-Unis, ils ont pas vraiment d'affaires là parce que il y a une guerre en Ukraine. Eux nous disent qu'ils sont pas impliqués officiellement. Et puis, ben ça, c'est une zone là, comme c'est comme l'Ukraine a grandi là. Là, c'est une zone périphérique à l'Ukraine. Là, t'en veux dire réécrire le droit international juste d'un bord de la table, ça fonctionne pas toujours comme ça, là. Personne y a vraiment cru. Moi, ce que j'ai très hâte de voir, et là, Yasmine, je dois te dire que j'ai plus de points d'interrogation que de réponses, c'est quelle va être l'interprétation politique de ça aux États-Unis? On en a parlé ensemble qu'il y a, au Parti démocrate, mais au Parti républicain aussi, des fractures sur l'Ukraine, là. Pas encore exactement au milieu, mais il y a une frange importante qui commence à dire « Hey, on n'est pas européens, nous, qui s'arrange donc? On a-tu vraiment besoin de mettre autant d'argent là? » Alors, est-ce que ça va être interprété comme hey, « si des avions russes peuvent se permettre d'écœurer des drones américains, ça doit être parce qu'on a l'air plus faible qu'on devrait l'être, donc c'est la faute à Joe Biden, puis il est pas un bon commandant en chef. » Ou est-ce que ça va fouetter le moral ou la fierté américaine en disant
« on se laissera
là,
pas
c'est faire. Pas vrai qu'on va se faire...
manger la laine sur le dos. »
Ou envoyer du carburant sur
bourrer,
les oreilles.
Là,
exactement, oui, c'est ça. Alors ça va être... Comment est-ce que ça va être joué? Alors, on veut être sûr que ça déborde pas au plan militaire. Ça pourrait, parce que ça arrive des erreurs. Dans l'histoire, il est déjà arrivé que même des avions passagers ont été abattus parce qu'ils ont été confondus avec des avions militaires. Lorsque ça arrive dans les règles de l'art, il y a une enquête, il y a une responsabilité qui est prise, il y a même une compensation qui est offerte, puis là, ça amène à des conversations.
Il n'y avait pas un avion, d'ailleurs, qui est relié à l'Ukraine, là, qui...
Oui, mais là, et ça, c'est l'affaire qu'on ne sait pas encore, mais par exemple, il est arrivé des cas au-dessus, souvent, là, dans le coin de l'Alaska.
Oui.
Sinon, c'est toujours des vols entre l'Asie du Sud-Est et les États-Unis ou l'Amérique du Nord. Ça, c'était arrivé. Mais là, la grande question, c'est est-ce que les Russes pourraient dire, mais c'est arrivé, c'est une excuse, la facture, c'est 16 millions de dollars. Et là, l'armée américaine se dépêche de dire, mais on a déjà tout effacé ce qu'il pourrait y avoir. Mais là, dans un exercice de propagande assez fascinant, parce que il y a des centaines et des centaines de mètres de profondeur, là où le drone serait tombé. Et là, les Russes se dépêchent pour aller essayer de retrouver l'appareil. Est-ce que c'est pour le montrer? Dans un exercice de propagande. Puis là, les États-Unis ont tout de suite dit, en gros, ils vont peut-être trouver des morceaux, là, mais tout ce qu'il y avait d'intéressant, on l'a déjà effacé, là. Alors, ça va être intéressant de voir comment, au plan politique, tout ça va jouer.
Restons dans ce fabuleux monde de la Russie, de l'Ukraine. Eh bien, la base militaire de Sébastopol pourrait être un enjeu de négociation.
En gros, là, si vous pouvez, j'ai envie de vous dire, voici une bonne recette. Si vous voulez avoir l'air brillant du 18e au 19e, au 20e et au 21e siècle, et on vous pose une question sur la relation entre la Russie et l'Ukraine, dites, il y a la Crimée qui est un enjeu particulier. Sur 4 siècles, là, ça se tient, ça. Et là, j'ai retrouvé une citation, c'est du prince Potemkin, avant qu'il devienne un cuirassé, là, qui disait à l'impératrice Catherine la Grande, « La Crimée, saisir la Crimée, impératrice, ça vous assurera la gloire éternelle. La Crimée, ça va vous assurer la domination sur la mer Noire, puis un peu la mer d'Azov. Et la Crimée, madame l'impératrice, la Russie a besoin de son paradis. » Ça, on est au 18e siècle, là. L'obsession de la Crimée dans le psyché russe s'est ancrée très, 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 très profondément. D'ailleurs, quand Vladimir Poutine a fait l'annexion de la Crimée, c'est probablement le summum de sa popularité réelle en Russie. Il y avait l'impression de s'inscrire, parce que Poutine se voit comme la réincarnation, au sens politique du terme, de Pierre le Grand. C'est un tsar, c'est pas un dirigeant du parti communiste, c'est un tsar. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, la Crimée est l'enjeu des enjeux. Et là, le mois de mai et juin s'en viennent. On pense que c'est là où l'Ukraine pourrait faire sa contre-offensive. Dans l'Est, les Russes font pas vraiment de progrès. Un des scénarios, parce qu'il faudra un jour négocier avec Vladimir Poutine,
évidemment,
c'est de reprendre la Crimée pour après ça avoir quelque chose à négocier. Parce que c'est vrai qu'il y a une population beaucoup plus pro-russe en Crimée. c'est pas une raison pour l'annexer sans le dire de manière unilatérale.
Non, il n'y a pas eu de référendum, puis de quand du oui, puis quand du non, qui ont décidé que de s'annexer.
Exactement, là. Alors, on dit, ben, si je reprenais la Crimée, peut-être que ça me donnera quelque chose à négocier, parce que les Ukrainiens ont rien à offrir en échange, là. Mais au bout de la Crimée, depuis très, très, très longtemps, il y a, même si c'était territoire ukrainien, une base navale, une base militaire de la marine russe très importante, Sébastopol. Et c'était véritablement une des bases de la marine russe les plus importantes qui permet de dominer tout le commerce sur la mer Noire et la mer d'Azov. Alors, imagine, cette base-là devient intenable si l'Ukraine entre, ou les forces ukrainiennes entrent en Crimée. Alors ça pourrait faire partie dans les enjeux de nous allons vous assurer que vous continuerez à avoir une base militaire. Vous savez, des bases militaires de pays étrangers
en
sol, il y en a partout, là. Hein, prenez-vous au Moyen-Orient, il y a pas mal de bases militaires américaines dans ce coin-là. Alors ça se pourrait, ça, en échange d'un loyer, d'un dollar pour 10 ans, peu importe. Mais on voit que il y a une volonté du côté ukrainien de se donner un rapport de force. On sait qu'il faudra négocier. Et maintenant, la bataille militaire sur le terrain sert à transformer le rapport de force qu'il y aura le jour où on devra s'asseoir.
Et quand on parle de Sébastopol, puis c'est une grande ville, là. C'est la troisième après Moscou et Saint-Pétersbourg en Russie.
C'est très, très, très important. Mais c'est surtout au plan militaire. Parce
militaire,
que
oui.
Il faut savoir que, exemple, si vous contrôlez la mer Noire, vous pouvez presque décider si une personne sur deux dans le monde va pouvoir manger. J'exagère, là, mais tout le grain d'Ukraine ou à peu près passe par là. Pas par Sébastopol, mais par Odessa.
Oui.
Alors, vous pouvez pas vous établir tranquillement sur le bord de la mer Noire si il y a une présence hostile installée à Sébastopol. Alors ça fera partie des négociations. Présentement, là, les navires russes sont au large parce que ils ont appris, on se souvient, au début de la guerre, le Moskova s'est fait attraper par les forces ukrainiennes. Mais probablement que la Crimée sera un lieu de bataille important, pas pour le contrôle de la Crimée lui-même, mais pour être capable de se donner un rapport de force différent face aux forces russes. Parce que si Vladimir Poutine avait eu l'air d'un héros lorsqu'il a remis la Crimée au sein de la Russie, la Crimée, là, c'est pas un territoire autre, ça fait partie dans les nouvelles lois russes du territoire russe, comme oui. Saint-Pétersbourg, comme la Sibérie, comme Moscou. S'il l'échappe, là, ça devient difficile de dire un peu, là, ça va bien mes affaires, c'est une opération militaire spéciale. Puis aussi, est-ce que ce sera, là, ce que Vladimir Poutine commence à laisser savoir, c'est que c'est ma ligne rouge. Si vous allez là, je réponds plus de rien. Alors, on va voir, c'est loin d'être terminé.
C'est loin d'être terminé et la Crimée va continuer d'être au centre des relations entre la Russie et l'Ukraine, comme l'a été, comme tu l'as si bien décrit, depuis plusieurs siècles. Sébastien. Je me suis fait prendre au jeu. Guillaume Lavoie, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bye bye.